le thème de cette émission. Les six leaders de la coalition Ramuka réunis du 26 au 27 avril de dernier à Bruxelles, en Belgique, ont décidé de transformer leur coalition en une plateforme politique avec une présidence tournante d'une durée de 3 mois. Moïse Katumbi Tshakwe a été désigné pour être le premier à occuper ce poste. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail mercredi dernier, les travailleurs de la RDC ont brossé un tableau sombre de la situation socio-économique qu'ils traversent. La RDC a aussi célébré le 30 avril dernier la Journée nationale de l'enseignement. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, a demandé au chef de l'État de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents et de leur garantir un salaire décent. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans la Tribune de la Presse. Nous avons dans cette émission Luc Mikomo Kabongatre, le journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Luc Mikomo Kabongatre.
Bonsoir Guy Maté.
Claude Mauricio Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTMC. Il est aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Bonsoir Claude Mauricio Kayembe.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et Dexon Assani, journaliste indépendant et correspondant des radios 50 de Kinshasa et radio KFM de Kindu à Kalima au Maniema. Dexon Assani, bonsoir.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Luc Mikomo Kabongatre, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Quelle est l'actualité de la semaine que vous commentez ce soir?
L'actualité, c'est l'attente, on ne peut plus longue, de la nomination du Premier ministre. On l'attendait la semaine dernière, il n'est pas venu. On l'attend encore cette semaine. Il se pourrait que la semaine finissant, et nous ayons le nom du Premier ministre. Mais il y a encore cette autre actualité de l'évacuation des épaves dans la ville de Kinshasa. Moi, je me rappelle, nous sommes en juillet de l'an dernier. Derrière chez moi, il y a un poste de police et ça s'est transformé en un dépotoir de véhicules. L'année passée, au mois d'octobre, si je me rappelle bien, les agents de la commune arrivent avec des papiers. Et ils affichent sur le véhicule qui sont entassés là, ils disent « Dans 72 heures, nous revenons pour évacuer. » Dans 72 heures, la fourmilière, j'allais dire, s'est enrichie et ils ne sont jamais revenus jusqu'à présent. Et c'est devenu invivable, cet endroit-là. Donc, il y a plein de véhicules. Nous pensons que, finalement...
Il y a un nouveau gouverneur de la ville.
Le nouveau gouverneur qui vient va mettre en exécution les mesures pourtant salutaires prises par son prédécesseur et que la ville pourra se transformer de manière positive et que les gens pourront mieux respirer qu'avant.
Claude Mauricio Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTMC en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. C'est quoi l'actualité de la semaine que vous commentez ce soir?
Je commente l'actualité, c'est-à-dire la rencontre entre l'autorité morale du FCC, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et les gouverneurs récemment élus, parce que l'autorité morale a le pouvoir de donner des orientations à tous ceux qui sont avec lui dans son camp. Et j'ai salué le fait que les gouverneurs se sont appelés à prendre en compte l'esprit des coalitions constituées avec Cash, travaillant en parfaite collaboration pour faire avancer la politique imprimée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire que Joseph Kabila Kabange tient à ce qu'il y ait harmonie entre Cash et FCC pour que les choses aillent de l'avant. J'ai salué vraiment cette rencontre entre les gouverneurs des provinces récemment élus avec l'autorité morale Joseph Kabila Kabange.
Dexon Assani, directeur général de la radio-télévision Voice of Maniema, installé à Kindu. C'est quoi l'actualité de la semaine que vous allez commenter ce soir?
Merci beaucoup, Guy Maté. J'aurais bien préféré commenter l'actualité sur la validation des mandats des sénateurs tout au long de la semaine. C'était d'ailleurs le 29 avril dernier. Cette validation qui vient ainsi donner les pouvoirs aux sénateurs de pouvoir contrôler, légiférer. Bien sûr, bien qu'il y ait encore des étapes à réaliser, notamment l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, mais aussi l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Mais on espère déjà que ces élus des élus provinciaux vont devoir faire un travail de qualité, mais aussi je peux seulement les exhorter de travailler en bonne et due forme avec le président de la République, comme l'a fait Didier venait de le dire, Joseph Kabila hier devant les gouverneurs des provinces élus récemment.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Les solidaires de la coalition Lamouka, réunis du 26 au 27 avril dernier à Bruxelles, en Belgique, ont décidé de transformer leur coalition en une plateforme politique avec une présidence tournante d'une durée de 3 mois. Moïse Katumbi-Tchapwe a été désigné pour être le premier à occuper ce poste. Retour du match dernier à Kinshasa de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mouzito, des leaders de la plateforme Lamouka, venant de Bruxelles en Belgique, après avoir atterri à l'aéroport d'Ndjili, les deux opposants sont arrivés à la place Sainte-Thérèse, accompagnés d'une foule de sympathisants venus les accueillir au centre de l'adresse de Martin Fayoulou. La transformation de la Mouka, de la plateforme électorale, en une plateforme politique. Martin Fayoulou m'a dit dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Je tenais à vous livrer ce message. La Mouka est devenue une plateforme politique. Nous vous disons que les 6 leaders, ce que nous venons de faire, beaucoup n'y croyaient pas. Ils pensaient que nous allions nous diviser. Nous venons de nous réunir, mais nous aurons un présidium. C'est donc une plateforme politique avec un présidium qui aura un coordonnateur. Comme nous sommes à 6, ça sera tournant. C'est ainsi que, dans les jours à venir, nos 3 frères, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Antipas Mboussa Nyamoussi rentrent en RDC. Moi, je suis de retour et nous allons demander à notre frère Félix de démissionner.
L'ancien candidat à la présidence de la République a en outre annoncé la tenue dans les prochains jours de plusieurs manifestations populaires pacifiques pour réclamer la vérité des urnes. Luc Mikongo Kabongatre, la Mouka devient une plateforme politique. N'est-ce pas une conséquence logique de la situation politique qui a prévalu après les élections du 30 décembre dernier ici en RDC?
En fait, c'est une conséquence logique, comme vous le dites, mais c'est aussi un impératif dicté par les circonstances du moment, parce que les élections se sont déjà déroulées, les élections sont passées, maintenant il faut préparer l'avenir, et dans la préparation de l'avenir, les 6 leaders de la Mouka ont pensé transformer leur union en plateforme politique. Ce n'est que une stratégie politique pour, me semble-t-il, voir un peu l'avenir. Bon, les déclarations de Martin Fayoulou, telles qu'on vient de les suivre, moi je les considère dans le cadre des stratégies politiques, c'est-à-dire ne pas lâcher la pression, mais se préparer pour les futures échéances électorales. Mais quant à considérer comme tel, parce que sur les réseaux sociaux il s'est dit beaucoup de choses, mais je pense que Martin Fayoulou est dans la logique d'un combat politique. Mais le combat de 2018, la mandature 2019-2023, c'est déjà une page tournée pour monsieur Martin Fayoulou. Mais politiquement, on comprend qu'il puisse agiter de cette manière-là pour maintenir la pression, et cette pression-là dans le cadre d'une opposition républicaine, comme il l'avait déjà dit une fois. Mais cette agitation, cette pression, me semble-t-il, ne va pas modifier sensiblement quelque chose sur le plan des institutions telles qu'issues des élections. Merci. De décembre 2018.
Claude Moulicho Kayembe, les déclarations de Fayoulou, comme le dit Luc Mikomo Kamongat, s'inscrivent, n'est-ce pas, dans une stratégie politique pour se préparer pour les échéances, les prochaines échéances électorales, mais cela ne va rien modifier dans ce qui se passe actuellement au pays.
Oui, c'est son droit, nous sommes en démocratie. démocratie, il peut déclarer, mais sauf que nous avons dénoncé le fait que Fayulu a stigmatisé une certaine catégorie, a appelé les gens à la violence et puis à la haine ethnique. Et voilà pourquoi je donne même raison à ceux qui veulent
traduire. Il appelle les gens à la violence, à la haine ethnique.
Il a qualifié même. Bon, je ne voudrais pas parler sur la radio Kapi quand il parlait de Balouba. Tout ça. Non, il faut pas.
Il a dit ça.
Vraiment, il y a des gens qui détiennent des preuves. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on va les traduire en justice.
Vous n'avez pas suivi.
On va les traduire en justice.
Vous-même, vous n'avez pas suivi.
Moi, j'ai dit que.
Claude Mauricio,
nous sommes en pleine démocratie.
Vous pensez que.
Je n'ai pas été en Gilles Saint-Thérèse.
Voilà. Est-ce que vous pensez que.
Mais.
Vous pensez que Claude Mauricio.
La presse en parle.
Vous pensez que Martin Fayulu aurait intérêt à tenir des propos de ce genre.
Bon.
Qui appelle à la haine tribale.
Je ne sais pas. Je ne mets même pas à sa place. Mais c'est condamnable. S'il tel est le cas, c'est condamnable le fait qu'on puisse stigmatiser une catégorie
est-ce qu'il a fait
tribale.
Est-ce qu'il a fait?
Alors, je viens sur le fond du discours.
Voilà.
Guy Maté, aujourd'hui, il faut observer ce qui se passe dans le paysage politique congolais. Félix Tshisekedi a effectué sa tournée d'abord au niveau de la région et puis en Amérique, et puis ici au Congo, dans certaines provinces. Et il est en train de consolider son pouvoir. Et aujourd'hui, la MOUC est en train de s'éloigner de plus en plus du pouvoir. Et on a comme l'impression que Fayulu, quand il menait toutes ses actions, c'est comme s'il était seul. Les autres, bien sûr, étaient en Europe.
La MOUC s'éloigne du pouvoir. Est-ce qu'il a déjà été au pouvoir?
Non, parce qu'il dit que c'est lui qui a gagné. Selon les revendications, la vérité des urnes, quand on dit la vérité des urnes, et même l'Église catholique qui est en train là-dedans, c'est pas sciemment ou soit il s'est trompé parce que. Après, on a vu l'Église catholique faire les revirements. Aujourd'hui, l'Église catholique est allée vers Félix Tshisekedi pour lui dire que non, c'est vous qui avez gagné et nous comptons travailler avec vous.
Donc c'est vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que Luc Mekomo dit.
Moi,
lui, il analyse toutes ces pressions de Fayulu comme étant une stratégie politique pour se préparer aux prochaines
élections. Il peut se préparer. Il n'est pas le seul. Moi aussi, je serai candidat 2023, je l'ai dit, je me prépare aussi en conseil. Mais à quel niveau? Députation nationale, président de la République, ça reste à vérifier. Mais il est congolais, Martin Fayulu. Il a le droit de se préparer. Mais nous condamnons ce qu'il a prononcé comme discours. Le problème avec les autres groupes, aujourd'hui,
le fait d'avoir demandé au chef de l'État de démissionner.
Comment on peut demander au chef de l'État de démissionner pendant que vous dites que non, ce n'est pas lui qui a gagné et c'est Kabila qui l'a nommé? Pour Fayulu. Félix n'est pas président de la République, c'est Kabila qui est président de la République jusqu'à aujourd'hui. C'est contradictoire, donc il y a une confusion dans son esprit.
Merci.
Mais les autres, ses coéquipiers, ils parlent des lycéens qui sont ensemble, ils vont créer un présidium. Mais Moïse Katumbi, il a déclaré tout haut qu'il ne ferait pas opposition à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il reconnaît que c'est lui qui est président de la République. Mais comment vont-ils marcher ensemble? Kiungwa Kumanza qui est sur la Mouka, les autres. Mais bon, je ne parle pas de Délice Sanga ou de Claude Lubaya, mais. Moussa Nyamwisi, quand Félix Antoine Tshisekedi est passé par Beni Boutembo, c'est Moussa Nyamwisi qui a demandé à ses frères Ninor qui voulait bien accueillir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, Fayulu, ce qu'il peut faire, c'est de réactiver son parti politique décidé parce qu'il n'a même pas de député. Le même député dit qu'il ne va pas siéger. Entre temps, Mouzito dit qu'il va siéger, il va peser dans l'Assemblée nationale, alors que son parti, le parti de Mouzito, n'a pas de député.
Dexon Asani, c'est vrai que la MOUC s'est mis en plateforme politique, mais vous avez suivi l'aspect relevé par Claude Mauricio Kayembe. Il y a des points qu'il faut clarifier. Hein. Est-ce que la MOUC est dans l'opposition? Vous avez suivi, il a évoqué les cas de Kimwa Kumwanza et qui a affirmé qu'il n'est pas prêt, lui, à faire de l'opposition à Félix Tshisekedi. Malheureusement, la communication n'a pas été bien faite, c'est ça l'impression qu'on a. On n'a pas bien clarifié les choses. Est-ce que la MOUCA est dans l'opposition? Est-ce que la MOUCA pourrait, avec l'évolution des choses, accepter de collaborer avec l'actuel régime? C'est quoi votre point de vue par rapport à cette communication de la MOUCA?
En tout cas, mon point de vue est un peu plus clair là-dessus. Le fait que la MOUCA se transforme en une plate politique, c'est une initiative vouée déjà à l'échec dès le départ. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dedans, si vous entrez vraiment en profondeur de ces Lamouka, il y a des gens qui se disent de la Mouka, mais qui ne le sont pas vraiment. Ils sont en train de soutenir le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est le cas, par exemple, de Moïse Katumbi. Moi, je voudrais entrer en profondeur. Pourquoi aujourd'hui on a donné le président ou la présidence de la Mouka pendant ce trimestre ici à Moïse Katumbi? Parce qu'on a vu qu'il avait déjà une autre position et il devait se rallier derrière Félix Tshisekedi. Et voilà, on a dit, bon, faut pas le laisser partir comme ça. On lui donne déjà la présidence pour essayer un peu de le coincer quelque part. Donc ça montre directement qu'il y a des gens qui se disent de la Mouka, mais qui ne sont pas de la Mouka. Mais aussi, avec tout ce qu'a fait ou tout ce que venait de faire Félix Tshisekedi en faveur de Katumbi, l'annulation de toutes ces poursuites judiciaires, pensez-vous vraiment Guimaté que Moïse Katumbi serait derrière ces cinq autres coéquipiers de la Mouka ou bien derrière le président Félix Tshisekedi? Dernièrement, vous avez suivi aussi la position du MLC qui a dit que la Mouka est en perte de vitesse, la Mouka n'a pas de leader, la Mouka est ceci et cela. Tout ça, ça montre que dedans, il y a des divisions au sein de cette plateforme aujourd'hui qui s'appelle plateforme politique la Mouka et qui risque même d'être une initiative voie à l'échec. Vous suivez aussi les déclarations de Baba Kiungwa Kumwanza chaque jour. Il est en train de dire que dans la Mouka, il n'y a plus rien. Je voudrais aussi aborder le point de la déclaration de Fayoulou tout à l'heure, le jour de son retour. Mon frère, moi je pense, et voilà même pourquoi je donne raison au PGR qui a initié hein, les poursuites en faveur de la Mouka. Parce que tout ce que fait Martin Fayoul actuellement, ce n'est qu'outrage, mais aussi il est en train d'inciter les gens à la haine. Et pourtant, on a dépassé cette étape-là.
Dexon Hassani, qu'est-ce qui a été dit par Fayoulou qui peut être considéré comme étant une incitation à la haine?
Moi, je pense que tout est clair. Il y a des,
éléments. Apparemment, il y a des rumeurs. Hein. Vous savez, Claude Moluchio a essayé de relever l'aspect. On lui pose la question, il dit, ça s'est dit. Lui-même n'a pas suivi. Est-ce que vous l'avez suivi en train d'inciter à la haine ethnique?
Malheureusement, je ne suis pas dans ces studios en possession de ces éléments. Sinon, il y a des éléments qui sont en train de circuler, même sur la toile. Ça circule dans différentes chaînes de radio et télévision. Tout ce qu'il est en train de dire...
Est-ce qu'il n'est pas dans sa position d'opposant?
Guy Maté, on est opposant, oui, on ne refuse pas, c'est reconnu constitutionnellement, mais il y a des limites. Il y a des limites lorsqu'on veut déborder ces limites. En ce moment-là, la justice met la main sur vous.
Merci. Luc Mukomo Kabongatre, votre réaction. Il y a des gens qui se réclament de la Mouka, mais qui ne sont pas de la Mouka. Comment vous réagissez à cette allégation de M. Dexon Hassani?
Non, je réagis au propos de deux. Je trouve que les deux confrères qui sont avec moi sur ce plateau ne pénètrent pas véritablement la chose et ils disent des allégations, comme on dit, sans preuve.
Qu'on ne sait pas vérifier.
Vous avez demandé à Claude, est-ce que vous avez suivi? Claude dit...
Je n'étais pas à la place Sainte-Thérèse. Je n'étais pas là.
Il a appris.
Mais j'ai lu dans la presse, j'ai fait écouter les journaux, Forum des As a publié un article qui fait allusion à cette incitation à la haine.
Moi, je pense que nous, journalistes, nous devons nous fier aux faits. Le fait, généralement, c'est des événements auxquels nous avons participé.
Et à votre avis, les faits, c'est quoi par rapport à la déclaration de M. Fayoulou ce jour-là?
Parce que ce qu'allèguent les deux confrères sur moi, ça rime avec ce que l'on a dit hier. Le discours tribaliste, Claude l'a dit, qu'il incite les gens à la haine tribale. Moi, j'ai effectué du 21 au 24 mars dernier un voyage expressément à Kikwit pour vérifier cette histoire de tribalisme. Moi, je suis né à Kikwit, grandi à Kikwit. J'ai fait une partie de mes études à Kikwit. Nos voisins immédiats, c'était des Kassaïens. Mais quand quelqu'un ne vous dit pas que c'est des Kassaïens, vous ne saurez pas que ces gens sont Kassaïens. Je suis allé à Kikwit. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des complexes commerciaux, construits par les Kassaïens, contre lesquels les prétendus tribalistes de Kikwit n'ont pas touché. Mais je crois que nos amis Kassaïens ont l'expérience qu'ils ont vécue dans le Katanga. des actes tribalistes contre les... Non, Claude, quand on est devant un micro comme celui de Radio Okapi, nous devons dire des choses correctes du début jusqu'à la fin. Je dis qu'il y a eu de l'exploitation politicienne dans cette histoire. Et quand Martin Fayoulou a parlé à Ndjili, il n'a pas invité les gens à la haine tribale. Excusez-moi.
Il a dit quoi ? On vous a posé la question.
Et, il n'a pas invité. Il a dit que M. Félix doit démissionner. Moi, j'ai
alors
dit tout à l'heure.
Connaît pas.
Moi, j'ai dit tout à l'heure que c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes lois, c'est dans la stratégie politique. Mais nous savons que la page des élections est tournée. J'étais sur un autre plateau avec mon confrère Paul Diakessé qui a dit que il faut qu'on efface le tableau parce que même la Cinco dont a parlé Claude est passée. Donc, la Cinco, si elle est passée, c'est parce qu'elle ne veut pas que l'on puisse tourner autour du pot. Le pays doit aller de l'avant. Mon ami et confrère Paul Diakessé se disait, la Cinco a effacé les tableaux. J'ai dit non, on a tourné la page. Parce que quand vous tournez la page, vous arrivez plus loin, vous êtes à la page, mettons, 32 ou 45, vous dites, mais qu'est-ce qu'il avait dit à la page 12 ? Vous revenez, vous relisez ce qu'on a dit à la page 12. Il y a l'autre Pichibanda qui dit la valise de Mobutu. J'ai dit, mais dans la valise, on conserve les biens. Mais quand vous voulez voir ce que Mobutu cache dans sa valise, vous allez ouvrir cette valise-là. Et moi, j'ai dit, autant Mobutu a sa valise, Kabila père a sa valise, Kabila fils à sa valise, et Tshisekedi aura aussi sa valise. Donc, à un moment ou à un autre, nous serons obligés d'ouvrir ces valises-là pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais quant à épouser le point de vue de la rue, nous, nous sommes journalistes, éclaireurs d'opinion, nous devons nous garder de tenir des discours irresponsables.
Claude Molucho, dans un point de presse organisé mercredi dernier à Kinshasa, Valentin Mouba, qui est président de l'IDPS du peuple, propose la mise en place d'une période de transition de 3 ans, à l'issue de laquelle on va organiser des élections transparentes et démocratiques. Il estime que pour lui, c'est un moyen, n'est-ce pas, pour résoudre ce qu'il appelle crise de légitimité des institutions. Comment vous réagissez à ces...
Je reviens sur la question de Valentin Moubaké, mais parce que lui qui comme a parlé de la Cinco.
Est-ce qu'on peut évoluer, on peut avancer.
Bon, parce que je voulais juste te placer un petit peu, parce qu'on ne peut pas tromper tout un peuple. La Cinco nous a clairement dit ici, avant même la publication des résultats de la dernière présidentielle, que c'est Fayoulou qui avait gagné la présidentielle. Et après, quand on a proclamé, c'est que Félix qui a gagné. Non, et maintenant c'était très ouvert, Cholet est revenu devant les médias pour dire que c'est Fayoulou.
Voilà,
et aujourd'hui, on a vu les mêmes évêques de la Cinco aller féliciter Félix et
Moubaké. Non, c'est pas responsable.
Non, on ne peut pas tromper tout un peuple. Écoute, surtout qu'on est au même homme des yeux.
La Cinco.
C'est Claude qui a parlé, Luc, j'ai la parole. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'on trompe un peuple comme ça, alors qu'on est serviteur du
Seigneur. Alors, Claude Molucho,
c'est pas catholique, même si on est catholique.
Est-ce qu'on peut évoluer?
Oui.
Il y a cette proposition faite par M. Valentin Moubaké.
Valentin Moubaké, c'est un acteur politique. Nous savons comment il s'est distancé de Félix après ce qui s'est passé au sein de l'UDPS, avant même la campagne électorale, avant même les élections présidentielles et législatives du 30 décembre 2018. Et aujourd'hui, il est dans un autre contexte. Il a formé son parti politique, l'UDPS le peuple, et il a un autre regard par rapport à l'UDPS Félix Tshisekedi, l'UDPS Tshibala, et par rapport à la scène politique congolaise. Donc, il peut dire ce qu'il peut dire, c'est son droit en tant qu'acteur politique, qu'il est congolais. Il propose un dialogue. Oui, moi, je pense que c'est pas mauvais.
Une transition de 3 ans.
Non, transition de 3 ans pendant que le mandat est de 5 ans. Et quand on terminera la transition de 3 ans,
il estime que c'est une façon de régler cette
crise. Non, le pays a beaucoup dépensé pour les élections qui viennent de se dérouler. On a beaucoup dépensé, mais surtout que ces élections ont été financées par le gouvernement congolais. Moi, je pense que Valentin Moubaké, en tant qu'acteur politique, il peut attendre parce qu'il s'est dit leader et il a une base. Et comme les autres,
Ils peuvent attendre 2023, merci. Comme Fayou le dit, qui se prépare pour 2023. Tout le monde se prépare et Joseph Kabila aussi se prépare pour 2023.
Merci, Dexon Hassani. Votre point de vue par rapport à la proposition de Valentin Moubaké. Une transition de 3 ans à l'issue de laquelle on va organiser des élections transparentes.
Ça ne peut pas aller.
Pour régler la crise de légitimité.
Et tous les moyens qu'on a mis, que l'État a mis pour organiser ces élections, qui va devoir les rembourser. Donc, le train est déjà en marche. On doit laisser ce train évoluer. Aussi, je voudrais dire au président Félix qu'il cesse de se faire voir aussi comme étant, c'est pas moi, un bienfaiteur ou quelqu'un qui a la volonté de tout faire à la fois. Le fait de relâcher à tout moment, aussi bien que c'est la décrispation du climat politique, de relâcher à tout moment ces opposants-là. Ils sont en train de se retourner contre lui une fois dehors. Donc à un moment donné, il doit savoir comment gérer ses émotions envers l'opposition. Il doit aussi savoir qu'il n'est plus de l'opposition maintenant là. Il est déjà au pouvoir. Et tous ceux-là qui ont une opinion contraire à lui peuvent nuire aussi son pouvoir.
Alors, la proposition de Valentin Moubaké.
En fait, Valentin est un acteur politique et que sa perception des choses, moi je peux dire que c'est que lui propose, ça approche un peu ce que dit Franck Diongo. Franck Diongo parle d'un colloque, d'un atelier pour essayer de résoudre la menace qui pèse sur notre pays. Et donc, Valentin peut proposer, c'est quitte à la classe politique d'examiner les propositions de Valentin Moubaké pour voir qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui est mauvais à rejeter, et faire une synthèse, si vous voulez, et une symbiose qui doit être cohérente pour la bonne marche de la nation. Mais quand les confrères disent tout ce que l'État a dépensé comme moyen, si cela est la voie obligée pour le retour de la paix, pour que le pays fonctionne normalement, le pays trouvera toujours les moyens avec l'entremise.
Mais c'est pas à cause des Fayoul qu'on doit tout faire.
Excusez-moi, avec l'aide des partenaires pour... Cette idée-là ne vient pas de Fayoulou.
Ça vient de Valentin Moubaké.
Vous êtes en train de confondre même certaines choses. C'est Valentin Moubaké qui demande ça. Donc, si telle est la voie pour sortir de l'imbroglio politique dans lequel nous sommes, il faut emprunter cette voie-là.
Merci.
Mais je pense que, logiquement, avec un peu de bon sens, j'ai dit tout à l'heure, la page des élections est tournée. Nous devons fixer notre regard vers les prochaines échéances afin de les préparer. Si vous pensez que celui qui a été proclamé élu ne l'a pas été, préparez-vous en conséquence pour le battre prochainement.
Merci. Claude Moulis, on va être concis parce qu'on n'a plus assez de temps. Et au-delà de cette mutation, n'est-ce pas, de la Mouka en plateforme politique, il y a aujourd'hui un débat en cours sur les porte-parole de l'opposition. Est-ce que ce débat ne va-t-il pas créer, n'est-ce pas, la scission au sein de l'opposition, parce que c'est tous les leaders de l'opposition qui estiment qu'ils ont les droits de jouer ces rôles-là. On a suivi Mme Bazaïba qui estime que qui est convaincu même que c'est Jean-Pierre Bemba qui doit être des porte-parole de l'opposition. Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes au sein des...
C'est inévitable, parce qu'aujourd'hui, on voit la dynamique des choses et on voit aussi les échéances qui arrivent en 2023. Parce qu'il faut se positionner, mieux se positionner. Donc, celui qui sera porte-parole de l'opposition aura une tribune libre, il aura les moyens de l'État parce que c'est constitutionnel, il aura vraiment droit au chapitre. Et il va mieux se positionner par rapport à la situation politique qui va se présenter avant 2023. Voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba ne veut pas lâcher. Et vous comprenez que Fayoulou, toutes ces activités qu'il a menées ici au Congo, il les faisait au nom de Jean-Pierre Bemba. Au même siège, parce que son chef, il a décidé là-bas... Aucune activité.
De... Ils sont dans la Mouka, non? Ils sont ensemble.
Ils sont ensemble. Maintenant, les voix commencent à s'élever pour dire que non, sur ce point-là... Hein, Madame Vazaïba l'a dit, et Bemba ne veut pas lâcher les porte-parole de l'opposition.
Soyez bref, cette question des porte-parole de l'opposition.
Voilà, moi je pense que ça doit faire objet d'un consensus. au lieu qu'il se chamaille, celui-ci tire les draps de son côté, l'autre de son côté. Le mieux serait qu'ils se mettent ensemble et décident sur un seul porte-parole.
Merci Luc Mukomo. Ce débat sur le porte-parole de l'opposition doit faire l'objet d'un consensus comme le propose Dexon Assani.
Je crois que l'opposition doit se parler, parler véritablement pour que celui qui va être choisi puisse être celui qui va garantir les intérêts globalement de l'opposition et que sa présence ne puisse pas devenir une raison de créer des fissures au sein même de l'opposition.
Merci. Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. À l'occasion de la commémoration de la journée internationale du travail mercredi dernier, les travailleurs de la RDC ont brossé un tableau sombre de la situation socio-économique qu'ils traversent. La RDC a aussi célébré le 30 avril dernier la journée nationale de l'enseignement. Les syndicats des enseignants du Congo Sieko en sigle a demandé au chef de l'État de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents et de leur garantir un salaire décent. Le gouvernement a réglé les gros des revendications contenues dans les cahiers des charges de l'intersyndicale du Congo pour 2018. Déclaration faite mercredi dernier par le ministre du Travail. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale du travail. Lambert Matoukou a indiqué que le chef de l'État met un accent particulier sur l'emploi des jeunes. Ses propos ont été recueillis par Alain Hirong.
En réponse au cahier des charges de l'intersyndicale nationale du Congo de l'année 2018, le gouvernement a réalisé, en dépit des difficultés conjoncturelles de l'époque, le gros des revendications y contenues, à savoir, premièrement, l'amélioration des conditions de travail, tant dans les secteurs privés que publics. Deuxièmement, la prise du décret sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC en sigle. Dans les secteurs privés dont le taux a été fixé à 7 075 francs congolais par jour pour les manœuvres ordinaires partant de 1630 francs congolais. Aussi a-t-il été signé le protocole d'accord avec l'intersyndicale de la fonction publique sanctionnant les négociations paritaires gouvernement-syndicat du secteur public qui accorde une augmentation salariale sur les trois ans 2019, 2020, 2021, payable à partir du mois d'avril 2019 pour le premier palier.
Claude Molicho Kayembe, journée internationale du travail et journée nationale de l'enseignement, c'est des occasions, n'est-ce pas, dont se servent les syndicalistes pour rappeler leurs revendications, revendications qui ne trouvent toujours pas satisfaction.
Des revendications, toujours des revendications, encore des revendications, Guy Maté, vous l'avez dit. C'est pour dire que les dossiers restent entiers. Vous savez que le 30 avril 2019, les enseignants ont marché de la gare centrale jusqu'à la présidence de la République, au niveau du palais de la Nation, pour déposer un cahier de revendications aussi, parce que il y avait un problème de 3 mois d'arrivée des salaires de 2017, il y a un problème de transposition des grades, nouvelles unités non payées, ainsi de suite, et les salaires. Vous allez comprendre que c'est depuis l'instauration du système prise en charge des enseignants par les parents d'élèves qu'il y a toujours de quoi quand il y a reprise des enseignements ou rentrée scolaire. Tous les jours, les enseignants viennent avec des revendications, le gouvernement temporise. Et ici, j'ai constaté, parce que j'ai suivi cette situation depuis 2003-2002, parce que la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves a commencé depuis 1992. Depuis 1992, avec Monseigneur Etchou, paix à son âme. Et aujourd'hui, ça continue jusqu'au jour. Là, on parlait de gratuité qui est constitutionnelle, mais ça n'a jamais été appliqué. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, les enseignants tiennent à ce qu'ils puissent vraiment, qu'on puisse supprimer cette prise en charge des enseignants par les parents d'élèves. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Parce que ça a été décidé pour suppléer au salaire des enseignants. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a une clé de répartition claire. Le ministère de l'EPSP a un pourcentage, l'église catholique a un pourcentage, l'école a un pourcentage, et l'enseignant se retrouve avec rien. Des miettes qui tombent dans sa poche en ce qui concerne l'argent déboursé par les parents. Donc, aujourd'hui, l'enseignant ne se retrouve pas. Voilà pourquoi ils ont dit, terminons cette affaire. Et je salue le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, terminons avec ce système de prise en charge des enseignants par les parents d'élèves. C'est quelque chose de positif. Donc, parlons de la situation en général. Parce que le 1er mai, vous avez suivi au niveau du boulevard Triomphal, les syndicalistes sont venus avec, encore une fois, avec un cahier de revendication. Ils ont parlé des SMIG pour le secteur privé, les protocoles d'accord. Mais toujours, on signe des documents qui ne sont jamais appliqués.
Claude Moluchot, oui. Lorsque vous suivez le ministre du Travail, lui, oui. il affirme, n'est-ce pas, il annonce que le gouvernement a déjà réglé les gros des revendications contenues dans les cahiers des charges des syndicalistes.
Et non, vous avez suivi qu'il y a les gens qui ont eu
pour 2018.
Et l'autorité est sur place, à la place. Non! Qu'est-ce qu'il a résolu comme situation? Le SMIC qui a été décidé, c'est 7075 francs congolais, soit 4,3 $. Où est-ce qu'on a appliqué? Jusqu'après, on n'a rien appliqué. Les protocoles d'accord signés, c'est juste un petit palier. Parce qu'on a dit que d'ici 2022 ou 2021, c'est déjà $50 pour un huissier à la fonction publique. Ça n'a jamais été appliqué. Donc nous disons que c'est un état de droit. Terminer cette affaire de député, un député qui touche $13 000 américains, terminé. Ici, je m'adresse au chef de l'État qui est en train de nous suivre à travers ses services. Vraiment, nous serons très regardants pour le budget qui arrive en 2020.
Merci.
Plus question des députés. Qu'un député touche $13 000, un sénateur $15 000, comme les syndicalistes l'ont dénoncé. Et le gouvernement réussit toujours à diviser les syndicalistes parce qu'ils sont corrompus.
Merci.
Pour qu'ils ne viennent pas faire la restitution à la base. Et la base est laissée pour compte. Les agents de l'État souffrent jusqu'aujourd'hui.
Merci.
Il n'y a pas de justice sociale. Et l'UDPS, je termine par là, l'UDPS nous a promis la justice sociale, l'état des droits. C'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous voulons voir l'état des droits de l'UDPS et la justice sociale de l'UDPS.
Merci
beaucoup.
On a compris. Jackson Hassani, le ministre a parlé de la prise, n'est-ce pas, des décisions sur l'application du SMIG, mais l'application est effective tarde. Est-ce que c'est les moyens qui font défaut ou c'est un manque de volonté de la part de ceux qui doivent exécuter cette décision du gouvernement congolais?
Les moyens ne font pas défaut, Guy Maté. Posons-nous la question. Où est-ce que le gouvernement a tiré tout cet argent qu'il est en train d'utiliser pour les 100 jours? C'est la volonté qui manque. Si SLMA, si le chef de l'État a besoin de mettre en pratique son slogan « Les peuples d'abord », c'est rien du tout, c'est dans un peu de temps, il peut tout régler. Aujourd'hui, il faut voir comment est-ce que les travailleurs sont en train de défiler, même au niveau de la présidence, sont en train de gréver partout. Pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3 jours, les médecins chez moi à Kindu sont allés dans les différentes rues pour contester leur situation économico-sociale qu'ils sont en train de traverser. Ici, même à Kinshasa, il y a eu des mouvements sur les boulevards. Donc tout ça, ce n'est qu'un manque de volonté de par nos dirigeants. Tout ce qu'ils sont en train de dire, l'augmentation, c'est pas moi des SMIC, 7 050 francs et quelque chose, c'est quoi? Ça dit quoi exactement? Est-ce qu'on peut s'applaudir quand on ajoute 7 000 francs ou quand on donne 7 000 francs à quelqu'un? Ces 7 000 francs là, qu'est-ce que vous allez acheter avec? Moi je pense qu'il est temps à ce que nos politiciens mettent en pratique tout ce qu'ils nous promettent. C'est inutile de nous embêter avec des messages qui ne produiront rien lors de la campagne électorale. Le mieux serait qu'on mette concret des emplois en faveur de la population et cela va nous amener un peu plus Merci. Loin. Cela va même nous permettre de développer ces pays parce que si on est indépendant économiquement, on a la possibilité de tout faire,
Merci.
Voire même faire étudier les enfants.
Merci.
Aujourd'hui, là, les enseignants sont en train de crier jour et nuit. Ils bénéficient moins de $80. Vous trouvez ça normal,
et
vraiment?
C'est depuis des années, des décennies.
C'est depuis des années.
Merci,
et pourtant, il y a des gens qui sont en train de dire, un enseignant touchera d'ici là $250 ou $200, un huissier pas moins de $200. Donc, ce sont des démagogies. Nous n'avons même plus besoin de les écouter.
Luc Mekomo Kabongat, comment vous expliquez cette inflexibilité, cette insensibilité qui est manifestée, n'est-ce pas, dans les comportements des décideurs politiques qui vont jusqu'à paupériser les fonctionnaires de l'État et la situation est maintenue, cette situation est maintenue depuis des décennies?
En fait, moi j'ai une autre lecture. Je peux vous étonner. Parce que généralement, quand vous entendez les gens faire des critiques, ils ne regardent que d'un côté. Ils ne regardent pas de l'autre côté. Les gouvernants qui ont en charge le salaire des fonctionnaires, ils sont devant des réalités telles que il y a la donne interne, c'est-à-dire qui est strictement liée à la réalité du pays, mais il y a aussi la donne externe qui dépend de la réalité extérieure qui obéit à d'autres principes. Combien notre État doit à l'extérieur et quel est le bénéfice que l'extérieur tire de l'investissement qu'il aurait pu faire ici du point de vue interne? Moi, je crois que la question elle est un peu complexe. Il ne faut pas aller vite pour dire qu'ils sont en train de paupériser, parce que vous seriez à leur place, vous feriez peut-être pire.
Mais lorsque vous observez la situation dans laquelle se trouvent les fonctionnaires de l'État depuis des décennies dans ce pays,
ce n'est pas raisonnable.
On ne peut pas parler de paupérisation.
Oui, en fait, si vous voulez analyser comme monsieur tout le monde, vous dites ces gens ont été paupérisés. Mais quand vous êtes au niveau de l'assiette où se prépare le repas qu'on doit donner au salaire, vous tenez compte de la pression extérieure et de la réalité intérieure, vous allez vous rendre compte qu'il faut réfléchir 1000 fois pour prendre une décision définitive. Ainsi donc, moi je ne dis pas que les gouvernants qui se sont succédés ont eu raison, j'ai dit non. Mais je pense qu'il y a une équation qui reste à faire, c'est de mettre en harmonie, en cohésion, la réalité interne et les pressions externes. Merci. Afin de répondre aux sollicitations des travailleurs. Merci. Qui œuvrent au sein du pays sur le plan national.
Claude Bonichaud, c'est un problème complexe qui va au-delà même des décideurs politiques nationaux.
Ce n'est pas un problème complexe, parce que mon confrère Luc Bicomo parle d'une réflexion. Mon cher ami, imaginez-vous qu'un député national touche 13 000 dollars, 9 000 dollars comme salaire et 4 000 comme frais de couloir, 13 000 par mois, et un sénateur 15 000 dollars par mois, et un enseignant qui touche 80 dollars. S'il faut évaluer 100 dollars.
Et donc,
non,
il faut,
c'est inconcevable.
On a la capacité.
Il n'y a pas de réflexion à faire, c'est clair.
Il n'y
a pas justice sociale.
Vous pouvez compléter. Oui. On a la capacité de mobiliser des ressources pour bien payer les parlementaires.
Mais on est incapable pour payer les enseignants de mobiliser et les fonctionnaires.
Des ressources pour payer les fonctionnaires.
C'est inconcevable. Moi, je me dis qu'il n'y a pas justice sociale. Nous sommes tous des Congolais. Moi, je suis un agent de l'État. Je l'ai dit tout haut. Et les chefs de l'État qui arrivent ici, comme ils prennent la justice sociale et l'état des droits, je pense que cette fois-ci, un député ne touchera plus 13 000 dollars. On va revoir à la baisse son salaire. Et un enseignant ne touchera plus 50 dollars ou 60 dollars. On doit revoir son salaire à la hausse et il y aura équité et équilibre.
Oui, Dexon Assani, à votre avis, l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants ainsi que de tous les fonctionnaires de l'État passerait par quoi? C'est quoi la solution? Des solutions concrètes, des solutions adéquates et convenables, selon vous?
C'est l'égalité sociale, donc la justice sociale sur le plan salaire, c'est-à-dire les chefs de l'État doivent regarder, ils doivent essayer un peu de revoir dans ces lignes budgétaires qu'est-ce qu'il faut supprimer qui n'est pas beaucoup plus important par rapport à une autre couche. Par exemple, s'il y a un député qui toucherait 13 000, s'il n'y a pas moyen qu'on essaye un peu de soutirer ne serait-ce que quelque chose, soit ces députés restent à 5 000 et pour essayer un peu de satisfaire l'enseignant qui est à moins de 80 dollars ou un infirmier qui touche moins de 50 dollars. Il faut aussi voir les différentes classes qui sont proches de la population, qui travaillent pour l'intérêt de la population. Certainement, même les députés ou les sénateurs sont en train de travailler pour l'intérêt de la population, mais il y a ceux qui sont beaucoup plus proches de la population, c'est par exemple les enseignants, les infirmiers, il y a d'autres catégories qu'on doit revoir leur façon de vivre. Je disais tout à l'heure là, c'est un problème de volonté. Les chefs de l'État ont voulu à ce que des chantiers soient ouverts par-ci, par-là, sur toute l'étendue du pays. Et ça a été fait. Qu'est-ce qui bloquerait s'il disait aujourd'hui, s'il décidait aujourd'hui qu'un enseignant touche 300 dollars ou 400 dollars ou 500 dollars? C'est la volonté qui manque.
Cette question de suppression de la prise en charge des enseignants par les parents, c'est un défi qui doit être réglé. Imaginez le nombre d'enfants qui n'étudient plus depuis des années à cause de cette
système. Il faut supprimer. Il faut également supprimer l'injustice sociale. Mais il faut résoudre un problème de manière holistique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on résolve le problème d'une catégorie et qu'on laisse pour compte d'autres. Donc il faut que la solution soit trouvée pour tout le monde afin qu'on se sente citoyen d'un même pays, traité de la même manière, du haut jusqu'en bas, sans qu'il y ait trop de différences. 13 000 dollars à 80 dollars, ce n'est pas correct. Mais il faut que la solution soit holistique pour que tout le monde puisse respirer et bien respirer dans un même pays.
Et donc privilégier la justice sociale.
Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Merci à Kéline Kouté de Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi.